Feda Wardak, donc artiste et architecte afghano-français. Vous êtes aujourd'hui présent pour la présentation d'une exposition « Chercheur d'eau ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce projet et le lien avec le pôle Ambulo ?
Oui, bonjour. Donc, comme vous l'avez dit, je suis un artiste afghano-français. J'ai passé mes premières années en Afghanistan avant d'arriver en France, de grandir ici et de faire mes études ici. Donc, j'ai fait pas mal d'allers-retours entre ces deux géographies depuis petit. Enfin, depuis la fin de l'adolescence plutôt. J'ai grandi dans un imaginaire qui m'a souvent renvoyé à ces terres très lointaines. Ma pratique en tant qu'architecte au départ m'a amené vers l'édition. Et de l'édition, j'en suis venu à, disons, une pratique plutôt artistique. Et dans mon travail de recherche en édition, j'avais beaucoup écrit sur les enjeux impérialistes en Afghanistan, sur les dynamiques impérialistes de ces 40 dernières années. Et finalement, c'est 10 ans plus tard que je commence à amorcer des formes à partir de ces écrits, dans ce cycle Chercheur d'eau. Donc Chercheur d'eau, disons que c'est plutôt un répertoire d'œuvres sur lesquelles je travaille, qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des installations sonores, des œuvres plastiques, des films, des créations chorégraphiques. Et elles... L'ensemble s'imbrique dans un contenu global que j'ai intitulé « Chercheur d'eau ».
Alors, par exemple, ce qu'on peut voir, est-ce que vous pouvez me décrire ce que c'est ?
Donc, on est au Cairn, à Digne-les-Bains, dans la salle d'exposition. Donc, c'est une salle de 10 par 20 mètres, on va dire. Donc, il y a un seul espace avec une seule œuvre qui est immersive. Et par immersive, j'entends que c'est à la fois une installation plastique, une création sonore et une création lumière. Et donc, c'est des tas de terres, c'est des terres noires, donc c'est des terres du territoire qui, moi, m'avaient beaucoup marqué quand j'étais venu faire mes repérages il y a un an. Donc, le commissaire d'exposition Charles Garcin m'avait emmené là-bas. Et pourquoi ça m'avait marqué ? Parce que j'avais l'impression que les montagnes avaient été brûlées. C'était pendant l'hiver. Et en Afghanistan, moi, je travaille beaucoup sur la question de la recherche de l'eau sur des territoires arides parce qu'on a des systèmes d'adduction d'eau dans les montagnes qui sont millénaires et qui, à cause des bombardements de ces 40 dernières années, se sont effondrés. Donc moi, je travaille avec les derniers artisans de l'eau pour réparer ces galeries souterraines. Et quand j'ai vu ces terres noires, j'avais l'impression qu'en fait, c'était les montagnes afghanes qui avaient été brûlées. Et c'est en ce sens-là que j'ai décidé de travailler sur la question de ces sourciers, chercheurs d'eau, ces creuseurs de galeries souterraines, ces réparateurs de voies d'eau avec lesquels je travaille depuis 12 ans pour les resituer ici dans la salle d'exposition. Et donc, il y a des tas de terres noires et des corps que j'ai moulés et que j'ai tirés et qui sont des corps cassés. Qu'on répare parce que ces artisans de l'eau en fait ont passé leur vie à sous terre à essayer de réparer ces voies d'eau et en fait ils se sont abîmés les corps sont courbés, les corps sont fragilisés, les corps sont cicatrisés à cause des bombardements et donc j'ai décidé de me réemparer des outils que eux utilisent pour réparer les sols, donc des étais, des tiges filetées, des agrafes pour les appliquer sur leur corps et réparer leur corps. Et il y a une création sonore de 20 minutes où je lis des textes que j'ai écrits sur ces enjeux-là.
Est-ce que vous pouvez développer justement sur le dispositif sonore ? Donc c'est uniquement des textes ? Est-ce qu'il y a aussi une ambiance, de la musique ?
Donc c'est à la fois des textes que j'ai écrits et que je lis et qui sont accompagnés par une création sonore originale qui a été réalisée et créée par Mathieu Gasnier, avec qui je travaille depuis quelques années. Et donc c'est à la fois des ambiances musicales, des textures musicales, mais aussi des moments où on est dans des musicalités qui sont pleines.
Et quel rôle jouent les récits de sourciers et de montagnes, des récits locaux en Haute-Provence, dans votre inspiration ?
Je pense que là, au départ, quand j'ai été invité pour une résidence territoriale. Et dans ma pratique, moi, c'est quelque chose que j'interroge beaucoup, parce que j'ai travaillé, moi, sur des territoires pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et quand Charles Garcin, du coup, le commissaire d'exposition dont je parlais auparavant, m'avait invité, je lui ai dit, honnêtement, si on dit que c'est une résidence territoriale et que je passe juste deux fois, ça ne me convainc pas. Donc, je préfère venir avec mes recherches et que ça fasse écho au territoire. Et donc, j'ai eu des rencontres, notamment une rencontre qui m'a beaucoup inspiré et intéressé avec Sébastien, qui est un observateur de l'érosion. Il a un laboratoire dans les terres noires, justement. C'est un peu de là-bas que le discours a commencé à se tisser pour moi. Mais ce serait mentir aujourd'hui de dire qu'il y a eu un réel ancrage avec les acteurs locaux. Moi, c'est plutôt un dialogue que je veux amorcer entre mes recherches là-bas qui font pleinement écho à ce qui se passe ici, en fait. Sur la manière dont la montagne est rongée, est érodée, sur la manière dont on cherche l'eau, sur le rapport de l'eau à la montagne, sur ses artisans et ses savoir-faire qui disparaissent au fur et à mesure des années, et sur l'impact là-bas peut-être des dynamiques impérialistes et ici peut-être aussi sur les questions d'exode ou la manière dont l'appareil capitaliste peut, à un moment donné, emmener les gens vers les villes et du coup les savoir-faire s'estompent et s'effacent avec le temps.
Oui, on va revenir sur, comment vous appelez ça, les caresques, c'est ça ?
Caresque, c'est très bien en français, et en pachto, on dit corez. En fait, les Khorezmes, ils sont peut-être plus connus sous le nom des Khanats en Iran. Et en fait, c'est un système qui vient d'Iran à la base et qui aujourd'hui existe au Maroc, existe au sud de l'Espagne, à Palerme, en Italie aussi, au Yémen. Enfin, c'est quelque chose qui s'est vraiment beaucoup déployé. En Afghanistan, on les appelle les Khorezmes. C'est des galeries souterraines, du coup, qui ne sont pas visibles, qui ont été creusées par les gens. En Afghanistan, là où je suis, c'est là où, dans le district de Djaratoud, où je suis originaire, où je travaille, on les a depuis 1000 à 1500 ans. Et en fait, c'est dans des territoires arides, les gens se sont rendus compte que la terre était très fertile, mais qu'il n'y avait pas d'eau. Et donc, ils ont commencé à creuser en direction de la montagne. Et donc, au fur et à mesure qu'ils creusaient, bah, ils passaient sous terre. Et c'est une espèce de tunnel avec une pente quasi inexistante. Et en fait, les gens ont creusé ça sur 30 ans, 40 ans. Ils sont morts. C'est les enfants qui ont pris le relais. Ils sont morts. Puis c'est la génération suivante. Et ça renvoie aussi à la notion de bien commun qu'on renvoie souvent à l'eau, où en fait, les gens ont creusé, mais n'ont jamais vu l'eau. C'est peut-être 3-4 générations ensuite, au bout de 150 ans, qu'ils ont réussi à creuser les 20 km qui permettaient d'aller des terres arides jusqu'aux montagnes. Et en fait, quand on arrive au niveau des montagnes, il y a ce qu'on appelle les nappes phréatiques perchées sous la montagne. Et c'est comme si on perçait avec une aiguille un espèce d'énorme ballon rempli d'eau. Et puis là, l'eau s'écoule en continu à l'année, sans énergie extérieure. C'est juste le travail de la gravité. Et donc ça, c'est des Khorezmes. Et ce qui a permis en fait de stabiliser des populations dans des territoires désertiques où ils se sont développés grâce à l'agriculture.
Donc c'est très important de l'exploiter, mais en même temps, c'est très dangereux.
Les gens qui les creusent, c'est un travail qui est hyper dangereux, effectivement. Et donc, quand il y a eu ces bombardements de drones, donc c'est quelque chose, les textes que j'ai écrits parlent aussi beaucoup de ça, parce que les sourciers, les chercheurs d'eau, ont aussi été pris pour cible. Pour moi, c'était les derniers et les vrais résistants, parce que quand on a une baguette ou une tige de peuplier entre les mains, vu d'un drone qui est piloté depuis le désert du Nevada par des gamins qui ont 20-25 ans et qui ne savent pas identifier les gestes d'un territoire et de sa sociologie, parce qu'on n'est plus à perspective d'humain, on est en condescendance, on est en surplomb, on voit d'en haut, on voit de loin, bah en fait, c'est des gestes flous. On ne sait pas ce que fait cette personne. Et donc, lorsque l'intelligence artificielle a été intégrée dans la manière dont les drones analysaient des territoires, bah en fait, il y a certains gestes qui ont été suspects. Et donc, il y a des gens qui ont été ciblés par ces drones et qui sont morts, et c'était des chercheurs d'eau. Et donc, la dangerosité, elle se situe du coup à deux endroits. Elle se situe dans l'acte premier de creuser, parce qu'à un moment donné, les bombardements ont fait que les sols ont vibré et du coup que ces galeries se sont bouchées. Donc lorsque ces gens creusent, bah, il y a un moment où ça se débouche et l'eau sort avec une pression monstre. Et le deuxième danger, il est aussi à la surface parce que ces personnes ont été prises pour cible par les drones de par leurs activités qui étaient une activité de recherche d'eau. Donc le vernissage a lieu demain, le vendredi 4 avril à 17h30 au Cairn à Digne-les-Bains, c'est au niveau du géoparc. Et l'exposition se tiendra du 5 avril au 22 juin. L'exposition est gratuite. Et ce sera de 9h à 17h tous les jours, 7 jours sur 7.
Merci.
Merci à vous.